VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Biron, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. L'opposant camerounais Maurice Kamto a été inculpé dans la nuit de mardi à mercredi de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. Plus de deux semaines après son arrestation, a annoncé un de ses avocats. Ces inculpations lui ont été signifiées par le parquet du tribunal militaire de Yaoundé et concernent également 28 autres partisans de M. Kamto, qui lui a été transféré dans la nuit à la prison centrale de la capitale camerounaise Yaoundé. L'ordre des médecins du Cameroun qualifie de barbare l'attaque menée par des hommes armés contre un hôpital de Koumba en zone anglophone. Les assaillants ont incendié l'établissement, mettant en fuite les malades et le personnel médical. Selon des journaux locaux, les séparatistes en voudraient au personnel de l'hôpital de soigner des militaires blessés dans des affrontements et les soupçonnent de divulguer à l'armée l'identité des combattants anglophones. Des accusations rejetées catégoriquement par Tetani Okwe, le président de l'Ordre national des médecins au Cameroun.
Ça nous laisse véritablement sans voix. L'Ordre national des médecins du Cameroun a toujours respecté une neutralité stricte entre les partis en conflit dans un problème politique. Mais lorsque nous voyons la nature du conflit atteindre ce qu'il y a de plus cher dans la société, à savoir la personne humaine, l'Ordre national des médecins ne peut pas rester indifférent quand il voit un hôpital, du personnel de santé et des malades véritablement réduits en cendres. Quelle que soit la raison, nous ne pouvons être que choqués.
Tetani Okwe, président de l'Ordre national des médecins au Cameroun. Au Congo-Brazzaville, la Banque africaine de développement, la BAAD, et l'Organisation internationale du travail, l'OIT, organisent un forum sur l'emploi des jeunes dans l'agriculture. Il s'agit pour les deux organisations d'apporter plus de financement au profit des jeunes qui s'impliquent dans l'agriculture. À Brazzaville, rejoignons notre correspondant Arsène Séverin.
Depuis quelques années, la tendance de voir les jeunes travailler dans l'agriculture se relève dans le pays. Alors que les palmiers sont plantés en zone forestière, deux jeunes, Arnaud et Michel Ndjombo, développent d'importantes plantations à Igné, à 45 km au nord de Brazzaville, en pleine savane. Michel Ndjombo.
Nous avons vu qu'il y avait un réel intérêt à s'installer en savane pour faire du palmier, parce que les différences de rendement n'étaient que de 30% par rapport à la forêt. Nous nous disons que nous pourrons gagner 1 à 2 tonnes par hectare en plus que ces surfaces, donc on sera autour de 12 tonnes hectare.
Patrick Mbemba, lui, se distingue dans la commercialisation des produits agricoles, un métier qui ne tentait jusque-là aucun jeune.
Donc nous sommes dans la production agricole, nous sommes dans la protection agricole, nous sommes dans la commercialisation des produits agricoles, nous sommes aussi dans la vente des intrants et matériels agricoles. J'emploie déjà 17 jeunes congolais de façon directe et de façon indirecte, je suis au moins à 300 jeunes congolais.
Pour le gouvernement congolais, il faut plus de moyens pour appuyer les jeunes. Henri Ndjombo est ministre d'État en charge de l'agriculture.
Pour inciter les jeunes, il faut électrifier les zones rurales, passer de l'étape de l'agriculture pluviale à celle irriguée, créer les conditions de logement en milieu rural. Tout part de l'apprentissage. Les jeunes doivent être formés pour pouvoir exercer des métiers à tous les niveaux. Il faut simplement créer les conditions de base.
C'est dans ce contexte que se tient à Brazzaville un forum sur les opportunités d'emploi des jeunes dans le secteur agricole. Pour Dr Doré Ousmane, directeur général de la BAAD, zone Afrique centrale, les jeunes doivent percevoir l'agriculture comme un vrai business.
Les jeunes sont prêts à suivre. Vous savez, ce qui a souvent manqué dans l'équation, c'est l'entrepreneuriat. On n'a jamais formé les jeunes à la technique d'entrepreneuriat. Or, l'agriculture, il faut le reconnaître, nous ne sommes pas dupes. C'est un secteur à haut risque. Le financement du secteur est même un peu problématique avec les banques. Donc, ce qu'il faut et ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est qu'il y a des mécanismes qu'on a mis en place, nous, la Banque africaine, d'autres partenaires financiers, pour essayer de régler cette problématique-là. Et comment un jeune qui a été formé dans les techniques d'entrepreneuriat, on n'a pas besoin d'être un agronome, qui doit être disconnecté de l'approche traditionnelle où on pense que l'agriculture, voilà, c'est juste pour faire une production qui parfois n'est même pas véhiculée sur le marché, qui pourrit souvent, manque d'entrepôts ou d'énergie. Voilà un peu la nouvelle approche.
La réunion qui se tient à Brazzaville devrait se terminer par l'identification des vrais projets agricoles suivis des diverses annonces des financements. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Les forces de sécurité soudanaises ont arrêté mardi un groupe de professeurs d'université à Khartoum qui se dirigeait vers un rassemblement contre le président Omar el-Béchir. Depuis le 19 décembre, le Soudan est secoué par un mouvement de contestation antigouvernementale déclenché par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Selon un bilan officiel, 30 personnes sont mortes depuis le début du mouvement. Human Rights Watch a fait état de 51 morts. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui dans les principales villes d'Afrique du Sud pour exiger la fin des licenciements dans le cadre d'une grève générale lancée par le principal syndicat du pays, la COSATU. Ce mouvement intervient à 3 mois des élections générales du 8 mai. Le gouvernement du Congrès national africain, ANC, allié historique de la COSATU, espère y conserver sa majorité absolue malgré les difficultés économiques et les affaires de corruption qui l'éclabousse. Les États-Unis ont dénoncé mardi la répression engagée au Zimbabwe par les forces de l'ordre contre la colère sociale et ont appelé toutes les parties à participer au dialogue national boudé par l'opposition. Le porte-parole du département d'État américain Robert Paladino a réitéré dans un communiqué les inquiétudes de Washington face à l'usage excessif de la force par le gouvernement depuis que des manifestations contre le doublement des prix des carburants ont dégénéré dans tout le pays à la mi-janvier. Selon M. Paladino, le bilan de cette répression est d'au moins 13 morts, 600 victimes de violences, tortures ou viols et plus de 1000 arrestations.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Haïti a connu hier une nouvelle journée de tensions émaillées de scènes chaotiques en marge des manifestations où au moins 6 personnes ont trouvé la mort depuis le début de la contestation jeudi. Les manifestants réclamaient notamment la démission du président, resté jusque-là muet, voitures incendiées, quelques magasins pillés après la dispersion du cortège qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes dans la capitale mardi. Les opposants les plus déterminés ont exprimé avec rage leur frustration contre les inégalités sociales grandissantes aggravées par la corruption systémique. Le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias El Chapo, a été déclaré coupable ici aux États-Unis de toutes les accusations par un jury américain. 3 mois de procès ont exposé l'extrême violence des cartels de la drogue. Le point avec Claire Morin-Gibou.
Le verdict a été annoncé au 6e jour de délibération par les 12 jurés du tribunal fédéral de Brooklyn. Au terme de la loi américaine, El Chapo, 61 ans, devrait passer le reste de sa vie en prison. Le Mexicain a été extradé aux États-Unis en janvier 2017 après 2 évasions spectaculaires au Mexique. Les enquêteurs américains ont fait défiler à la barre 56 témoins, dont de nombreux ex-associés ou employés d'El Chapo. Ils l'ont tous accusé d'avoir co-dirigé le puissant cartel de Sinaloa à l'ouest du Mexique. Ces témoins ont décrit avec force son rôle central pour organiser l'exportation de plus de 155 tonnes de cocaïne venues de Colombie vers les États-Unis. Ils ont aussi décrit les violences pour neutraliser les rivaux ou la corruption de la police, des militaires et représentants du gouvernement mexicain pour qu'ils ferment les yeux face à ce trafic. Les avocats de la défense ont dénoncé une mascarade de procès, assurant qu'El Chapo n'était qu'un bouc émissaire. Ils ont assuré qu'Ismaël El Mayo Zambada, co-dirigeant du cartel, toujours en cavale, était le vrai patron et la pièce manquante à ce procès.
L'opposant Juan Guaido a annoncé que l'aide d'urgence américaine entrerait le 23 février au Venezuela malgré le refus du président Nicolas Maduro qui, niant toute famine dans son pays, la considère comme une première étape avant une intervention militaire. Il a demandé aux quelques 250 000 volontaires, là il s'agit de M. Guaido, inscrits pour participer à l'acheminement de l'aide stockée à la frontière, de se tenir prêt pour former des caravanes. Le 23 février, cela fera un mois que Juan Guaido s'est proclamé président par intérim du Venezuela. Et puis, la Cour internationale de justice rend ce mercredi sa décision sur une plainte de l'Iran qui tente de récupérer près de 2 milliards de dollars de ses avoirs gelés par Washington pour indemniser des Américains victimes d'attaques terroristes. La République islamique avait engagé une procédure contre les États-Unis devant la CIJ en juin 2016 afin d'obtenir le déblocage de ses fonds. Jean-Roger Billon à ce micro au prochain journal dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.